Alors pourquoi le mystère de la transfiguration au deuxième dimanche de carême? Pourquoi cette lumière dans l'évangile alors que nous sommes en violet? Eh bien parce que le mystère de la croix peut être un mystère de gloire. Et que la gloire ne s'obtient pas sans passer par la croix. Vous remarquez que dans cet évangile, Moïse et Élie avec Jésus s'entretiennent ensemble de quoi ? De son exode, de son passage à Jérusalem, c'est-à-dire de sa passion. Leur conversation est autour de la passion. Et quand le Père parle, qu'est-ce qu'il dit ? Écoutez-le. Et quand on regarde dans l'évangile de Luc, qu'est-ce que vient de dire Jésus juste avant la transfiguration ? Il vient d'annoncer pour la première fois sa passion et il vient de dire « J'aimerais que vous soyez associés à cette passion. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Donc souvent dans notre esprit, nous voyons de manière successive la croix, le vendredi saint et le dimanche de Pâques. Voilà. Une fois que la croix va passer, il va y avoir la gloire, la joie. Or, là, on tient dans cet événement les deux ensemble. La lumière est donnée dans les ténèbres. Et les ténèbres, la mort, la croix, peut conduire à la lumière, à la gloire, si cette croix est traversée par l'amour, par l'offrande. Alors, en relisant l'actualité douloureuse de ces dernières semaines pour l'Église, je me disais en quoi la lumière faite sur les abus de quelques prêtres, sur des enfants ou des adultes, est peut-être une forme de croix pour l'Église, et peut-être, voyez, en quoi cette lumière est en fait un bien pour que l'Église sorte de ce moment de purification plus belle. Je me disais finalement en quoi la société nous rend service. Et c'est vrai que je n'ai jamais parlé de ce sujet encore ici, et il me semblait que je ne pouvais pas faire comme si de rien n'était en disant que le monde des médias s'excitait comme il le fait toujours. Je me rends compte que certains regards sur nous, prêtres, et vous me le partagez aussi, vous qui êtes dans le monde, laïcs, certains regards changent. Je pense à cette parole d'un prêtre qui me disait « Je suis sorti de la classe et j'ai entendu en sortant, on m'a rapporté, de toute manière les prêtres sont tous des... » Et je vais m'arrêter là. Alors en quoi cette lumière est un bien ? Quel profit nous pouvons en tirer ? Et aussi pour vous, en quoi elle peut vous parler à vous qui n'êtes pas prêtre ? Alors je vais donner quatre petits points. D'abord, il me semble que c'est un bien pour les victimes. Le chrétien, c'est celui qui fait miséricorde, qui reçoit la miséricorde, mais cette miséricorde s'accompagne d'une justice. Attention à ne pas séparer justice et miséricorde. Ne pas faire justice à la victime, c'est par amour, par miséricorde du bourreau, piétiner la victime. C'est la même chose pour nous, hein, pour notre vie. Nous devons réparer le mal que nous faisons et cela s'appelle la pénitence. Le jeûne, l'aumône et la prière n'ont pas comme seule fonction de faire du bien à notre âme, aux autres, de nous purifier, mais aussi de réparer notre cœur qui est devenu malade, de réparer le tort que l'on a fait aux autres de manière directe ou indirecte. Vous voyez, Zachée, quand il se rend compte du mal qu'il a fait, il va rembourser, 4 fois plus, il va réparer. Il y a un lieu pour la réparation, après notre mort, qui s'appelle le purgatoire. Après notre mort, vous avez le ciel, le purgatoire et l'enfer. Mais le purgatoire n'est pas simplement un lieu de purification, c'est aussi un lieu de réparation. La deuxième chose, cette lumière est un bien pour les prêtres qui ont commis ces actes. Car il vaut mieux être jugé dans ce monde que dans l'autre. Le réflexe, vous savez, qu'a l'homme suite au péché, c'est toujours de se cacher. Et le grand service que rend la société à ses prêtres, c'est de rendre leur péché public, c'est de leur prendre, de leur permettre de prendre conscience qu'ils sont pécheurs, alors qu'ils ne le savent pas. Alors, je vais faire deux petites digressions. La première, vous êtes surpris parce que je vous dis « ils ne le savent pas ». La personne qui commet cet acte ne sait pas que jouer avec la sexualité de l'autre, que ce soit un enfant ou un adulte, en quelques minutes, c'est détruire une vie qui s'est construite sur plusieurs années. Le corps en lui-même est spirituel, il est une mémoire. Ce qui se vit à l'extérieur de notre corps a des répercussions sur notre psychologie. Alors comme il y a des jeunes ici, là, au lycée, au collège, c'est important d'expliquer ce que dit l'Église sur le corps. Elle dit, en fait, la relation conjugale, la relation amoureuse, sexuelle entre un homme et une femme se vit dans le cadre du mariage. Voilà. Donc, il faut passer à l'Église, le mariage, vous voyez ? Bon. Voilà. Pourquoi ? Parce que la sexualité signifie le don de notre personne. Donc, je le donne à mon époux, à mon épouse. Ou à Dieu quand j'entends un appel au célibat et à personne d'autre. Ils ne le savent pas aussi, ces prêtres, car il faut savoir que le péché est auto-aveuglant. Le démon ne veut pas simplement nous faire tomber dans le péché, il veut qu'on s'installe en lui. Comment ? En permettant que notre conscience trouve des raisons pour justifier le mauvais comportement que l'on a. Ainsi, la personne dira « En fait, moi, je suis fait comme ça, je peux pas m'en empêcher, j'ai le droit à ça. » Je prends trois petits exemples, vous voyez. L'usage de la pornographie peut se greffer sur une addiction, un mal-être. Je vais pas bien, alors j'ai le droit. Je vais pas bien dans mon couple, je vais pas bien dans mon célibat. L'usage du vol peut se greffer sur le fait d'être mal payé. Je vais voler dans l'entreprise des choses, des fournitures. Le recours à l'avortement peut s'expliquer, se justifier à cause des circonstances de la grossesse. Et donc cette manière de légitimer le péché, de le justifier, de le rendre acceptable, nous conduit d'une part à la démission, au refus du combat, et d'autre part à entrer dans un dédoublement de la personnalité. Où il y a d'un côté une personne avec une immaturité affective, qui est peut-être de l'ordre du péché d'un côté, et de l'autre côté la figure publique qui paraît sans aspérité. La personne vit en paix, entre guillemets, avec ce dédoublement de la personnalité. Et il me semble que quelqu'un qui arrête de se confesser commence à légitimer son côté obscur. Il ne le voit plus. Voilà pourquoi des prêtres ne savent pas. Et j'ai envie de dire, nous ne savons pas aussi, nous. Nous ne savons pas quoi. Nous ne savons pas que 75% des abus sur mineurs se vivent dans les familles, à travers les proches des familles. Les trois quarts des abus viennent du cadre familial et un quart se passe dans les associations, les clubs sportifs, les écoles, l'église, que vous voulez. Donc c'est important qu'on le dise. Une journaliste à l'Express signalait en 2015, elle avait fait sur 3 années, le constat qu'en 3 ans, 57 professeurs ont été radiés ou révoqués après avoir été mis en cause dans des faits de pédophilie ou de pédopornographie. Donc ma question, c'est pourquoi ces enquêtes ne se font pas, pourquoi nous n'avons pas des reportages sur les familles, sur les professeurs, etc. Pourquoi l'Église est la seule cible alors que c'est la moins concernée? Je pense qu'on a une attaque explicite contre l'Église et l'affaire Barbarin, c'est C'est vraiment le personnage, vous voyez, le bouc émissaire. On joue avec lui comme un chat joue avec la souris, en espérant le dégager. Pour ça, je vous renvoie au propos de Gérard Leclerc sur France Catholique, au propos d'Aline Lisotte aussi, qui est philosophe. Pourquoi on juge quelqu'un alors que le père Prénat n'est pas jugé actuellement? Je pose aussi une question par rapport à la pornographie. Pourquoi un tel accès aussi facile? Je sais pas, moi, si quelqu'un décidait comme ça de faire un site nazi, parce qu'il trouve que la liberté d'expression, c'est important. Je peux vous dire que dans les 48 heures, son site, il n'existe plus. Par contre, l'esclavage des femmes sur les écrans, ça gêne pas. La troisième chose, c'est un bien pour comprendre que le chrétien est dans un combat spirituel et que le démon veut notre peau. Donc il y a des jeunes qui se préparent à la confirmation. Vous savez que vous entrez, quand vous êtes confirmé, avec les armes, le Saint-Esprit, pour combattre. Le démon tente ceux qui suivent le Seigneur. Celui qui ne suit pas le Seigneur n'est pas tenté. Quelqu'un qui dirait, vous savez, mon père, je suis pas allé à la messe, mais bon, il y a la chasse, et puis il faisait beau, et donc vous inquiétez pas, je vais me confesser. Celui-là, il va pas être tenté, celui-là. Celui-là, il descend le fleuve progressivement, tout doucement, et le démon le fait glisser. Mais voyez, celui qui aime le Seigneur, celui qui cherche à faire la volonté, celui qui est plein de Dieu, est tenté. Et nous ne parlons plus assez du combat spirituel. Dans les abus commis contre des adultes, des femmes, il n'y a pas que des prêtres pervertis, dérangés, malades. Il y a aussi un problème, c'est que l'homme est fragile et que l'ennemi veut toucher à ce qu'il y a de plus beau, la fidélité dans le mariage pour ceux qui sont mariés et l'offrande du célibat pour ceux qui sont célibataires. Je pense à cette parole de Claude Lacolombière. Je cite « Je sais, hélas, je ne le sais que trop, combien je suis fragile et changeant. Je sais ce que peuvent les tentations contre les vertus les mieux affermies. J'ai vu tomber des saints. » Tant que je n'ai pas compris ce combat, je n'entre pas dans le commandement du Seigneur, le dernier commandement avant la passion, veillez. Seul mot, veillez. Alors comment le démon nous fait chuter? Comment il fait chuter Jésus dans le désert? Il prend le registre des plaisirs. Tu vois, ces pierres vont devenir de la nourriture. Quand vous connaissez les James Bond, comment on essaye de faire chuter James Bond? On se dit, on va lui mettre dans le lit une très belle femme qui va lui prendre son pistolet. Voilà. Son arme. Le démon veut nous désarmer, veut nous amener à renier notre foi, non par le grill, non par Daesh, non par le pal ou la guillotine, mais en nous vautrant dans les plaisirs du monde. Donc la première chose, reprendre conscience de ce combat. La deuxième chose, il me semble que le prêtre va chuter à cause de l'absence de verticalité. Quand le prêtre n'est plus un homme de Dieu, quand il n'est plus un homme de prière, quand il ne scrute plus la parole de Dieu, quand il n'est plus un accompagnateur, un enseignant, mais qu'il est simplement un gestionnaire avec des échecs, il se dessèche. Et donc, il me semble que ce qui nous armera, nous les prêtres, c'est le fait d'être épaulés par d'autres prêtres et d'autres laïcs. Le Christ a appelé ses disciples deux par deux. Je ne comprends pas que des prêtres soient seuls. Et donc, être épaulé aussi par des laïcs, c'est-à-dire pas simplement collaborer pour la mission avec des laïcs, mais nous sanctifier ensemble, prêtres et laïcs. Nous soyons gardiens les uns des autres. Et si vous voyez un prêtre qui n'est pas juste, vous allez lui dire, en ayant prié avant, voilà. Enfin, c'est un bien car le monde a une haute exigence de l'Église. Il attend beaucoup de l'Église. Si nous sommes choqués qu'un prêtre déraille, c'est qu'il a été choisi, comme Abraham, pour être instrument pour tous. Abraham, par toi seront bénies toutes les familles de la terre. Donc le prêtre est obligé de refuser la médiocrité et de choisir la sainteté. Et pour nous et pour vous aussi, vous êtes appelés à sortir du lot. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Nous sommes différents du monde. Nous avons été mis à part pour être des chemins qui conduisent au chemin qui est Jésus. Nous ne sommes plus, j'ai envie de dire, dans le temps de l'enfouissement, où il fallait se cacher parce qu'on avait l'impression de prendre trop de place. Je vois qu'il y a des élèves là ici du Sacré-Cœur, de François-Xavier, du Collège Saint-Paul. Je suis surpris quand je vais dans des classes et que je vois des chrétiens qui n'affirment pas leur foi dans la classe, qui ne prennent pas part au débat. Je suis surpris quand je célèbre la messe à Saint-Paul ou au Sacré-Cœur parfois, de voir que j'ai devant moi des gens qui ne sont pas baptisés pour certains, qui viennent par curiosité, que des chrétiens qui seraient disponibles ne sont pas là. Quand vous êtes à l'école, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas comme à la mairie, vous ne perdrez pas votre travail parce que vous dites que vous êtes chrétien. Voilà. Il y a des gens qui sont persécutés dans certains pays parce qu'ils sont chrétiens. Et certains sont parmi nous aujourd'hui, ils peuvent en témoigner. Le chrétien a l'obligation de témoigner, il n'a pas à rougir, sinon c'est le Seigneur qui rougira comme dit l'Évangile. Voilà. Alors les quatre choses, c'est un bien pour les victimes. C'est un bien pour les prêtres qui ont commis ces actes, qu'ils comprennent, qu'ils sortent de l'aveuglement, que leur conscience leur soit redonnée. C'est un bien pour comprendre que le chrétien est dans un combat spirituel et que le démon va s'attaquer aux saints. C'est un bien car le monde a une haute exigence de l'Église.